Vous écoutez les dossiers du FBI. Une mystérieuse lettre. Deuxième partie.
Au service de police de Jackson au Mississippi, les enquêteurs rencontrèrent de nouveau le médecin qui avait aperçu la mini-fourgonnette blanche dans le quartier des Aaron. Il fallait espérer qu'il reconnaîtrait le visage de Wynne à partir d'une photo. Le médecin l'identifia immédiatement. Il était persuadé de l'avoir vu étudier un plan dans une mini-fourgonnette blanche garée devant sa maison à la mi-juillet, soit moins de 2 semaines avant l'enlèvement de Madame Aaron. L'autre voisine, qui avait vu un véhicule identique dans le quartier, identifia également Wynne comme étant le conducteur. L'implication d'Alfred Wynne dans l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron ne faisait plus de doute pour les enquêteurs, même s'ils en ignoraient toujours les détails.
Parce qu'il avait bel et bien été identifié, Wynne avait donc joué un rôle dans l'enlèvement s'il n'en était pas le seul auteur.
Agent spécial Patrick McGlennon.
Et si ce n'était pas lui qui était venu sonner à la porte de Madame Aaron et l'avait emmené de force, il était certainement celui qui avait orchestré toute l'affaire.
Les agents gardèrent Wynne sous surveillance. Peut-être les conduirait-il à la femme disparue. Mais le délai stipulé dans la lettre de la rançon touchait à sa fin et les chances de retrouver la frêle Madame Aaron saine et sauve étaient de plus en plus minces. Le lendemain du délai mentionné dans la lettre de rançon, les agents du FBI et les détectives de Jackson donnèrent des conseils au mari de la femme disparue, Annie Laurie Aaron, en vue d'une apparition à la télévision où il devait demander à son ravisseur de lui rendre sa femme. Dans la lettre, il n'y avait aucune instruction claire sur la façon d'obtenir la libération de Madame Aaron. Les psychologues espéraient que la conférence de presse encouragerait le ravisseur à entrer en contact avec Robert Aaron et à lui dire comment procéder pour revoir sa femme saine et sauve. Sa fille et son fils à ses côtés, Aaron demanda à toute personne disposant d'informations sur l'enlèvement de se manifester. Il s'adressa aussi directement au ravisseur et lui promit de suivre ses instructions à la lettre. Une semaine plus tard, le plan sembla avoir porté fruit. Le 15 août 1988, Robert Aaron reconnut l'écriture de sa femme sur une enveloppe dans son courrier. L'enveloppe, qui avait été oblitérée par la poste le 12 août, provenait d'Atlanta, en Géorgie. Les enquêteurs prirent toutes les précautions nécessaires pour ne détruire aucun indice. Robert Aaron croyait qu'il s'agissait de l'écriture de sa femme. Les experts du FBI le confirmèrent. Dans la lettre, Annie Laurie suppliait son mari de répondre aux demandes de ses ravisseurs, sinon, y écrivait-elle, il l'enfermerait dans une cave avec seulement quelques cruches d'eau. Bien que la lettre ne contienne pas d'instructions précises, pour l'agent Patrick McGlennon, elle était encourageante puisqu'elle permettait d'espérer que Madame Aaron était encore en vie.
Quand nous avons reçu cette lettre le 15 août écrite de la main de Madame Aaron, le moral des personnes travaillant sur l'enquête a remonté. Nous étions pratiquement sûrs, compte tenu du fait qu'elle avait rédigé cette lettre, qu'elle tenait encore le coup. Nous étions déterminés à ne pas la laisser tomber.
La lettre elle-même était datée du 10 août, soit 15 jours après l'enlèvement. Mais personne ne pouvait être absolument certain que Madame Aaron était encore en vie à cette date. De plus, il était impossible de savoir si le contenu intégral de la lettre ne lui avait pas été dicté, comme nous l'explique l'agent Tom Montgomery.
Certains mots de la lettre, comme « m'enfermer dans la cave avec quelques cruches d'eau » alors qu'elle s'adressait à des membres de sa famille, n'étaient pas les mots qu'elle aurait normalement utilisés. Elle aurait vraisemblablement écrit les mots « sous-sol » et « bouteille d'eau ». Nous avions donc l'impression qu'on lui avait dicté cette lettre.
Si tel était le cas, le message et la date pouvaient être faux. Aaron, qui ne savait trop que faire, décida de faire des chèques à tous les hommes mentionnés dans la première lettre. Voici le procureur James Tucker.
Il avait déjà demandé à son équipe de déterminer quelles avaient été à l'époque et pour chacune des personnes de la liste les montants saisis par l'entreprise.
James Tucker, procureur.
Il avait donc une bonne idée des montants en cause.
Monsieur Aaron remit donc aux hommes des sommes équivalentes à ce qu'ils avaient été obligés de payer lors des poursuites. Le montant total s'élevait à près $1 million. Aaron envoya notamment à Wynne, le suspect principal, la somme de $145 000. À chacun de ses chèques, il ajouta une lettre demandant le retour de sa femme, saine et sauve. Le FBI demanda au service des postes de livrer les enveloppes dès le lendemain. Un peu plus tard, des agents eurent un entretien avec l'auxiliaire juridique de Wynne qui leur raconta comment l'avocat avait réagi en recevant le chèque de Robert Aaron.
Quand Wynne a reçu son enveloppe à Tampa, en Floride, il l'a ouverte, il a lu le contenu de la lettre et s'est tourné vers son employé en disant « Ce n'est pas ce que je voulais ».
Il déclara à l'auxiliaire qu'il souhaitait retrouver sa vie d'avant, ravoir sa voiture confisquée, ses bijoux et tous ses autres biens. Wynne retourna le chèque avec un mot où il disait souhaiter que Mme Aaron puisse rentrer chez elle. Les agents croyaient maintenant qu'Alfred Wynne avait bien enlevé la femme, non pas pour toucher l'argent, mais bien pour se venger de Aaron, qui avait présidé le conseil d'administration de l'entreprise de photographie. Cela signifiait qu'il était peu probable que Mme Aaron rentre chez elle un jour. Quelques-uns des hommes gardèrent l'argent reçu, mais la plupart d'entre eux retournèrent le chèque en y ajoutant un mot.
Certaines personnes à qui M. Aaron a envoyé ses chèques les lui ont retournés immédiatement et lui ont écrit ou l'ont appelé pour exprimer leurs regrets à la suite de ces événements tragiques.
Agent spécial Patrick McGlennon.
Il ne voulait pas toucher cet argent et refusait de tirer profit d'une telle situation.
Deux mois et demi s'écoulèrent sans nouvelles du ravisseur Danny Rory Aaron. Étant donné son état de santé précaire, ses chances de survie après autant de temps étaient minces. Au début du mois de novembre 1988, l'affaire fit l'objet d'une émission policière. Après la diffusion, des agents de partout au pays durent donner suite à des centaines d'indications fournies par les téléspectateurs. L'appel d'une femme de Floride semblait particulièrement prometteur. Même si on avait bien pris soin de ne diffuser aucun des noms qui figuraient sur la demande de rançon, cette femme leur dit que si Alfred Wynne était sur la liste, elle avait d'importantes informations à leur transmettre. Les agents du FBI apprirent que cette femme de Floride était une voyante, ce qui ne leur inspirait guère confiance. Mais après quelques questions, ils apprirent qu'elle était respectée des autorités policières pour avoir souvent collaboré avec la justice. La voyante déclara qu'elle avait rencontré N. Alfred Wynne 4 ans plus tôt. Il était venu la consulter en 1984 pour des problèmes qu'il avait avec l'un des dirigeants d'une entreprise de photographie, l'entreprise même dont parlait la lettre de rançon.
Elle lui a alors conseillé de régler ses problèmes par le biais du système judiciaire.
Agent spécial Tom Montgomery.
Il lui a répondu qu'il l'avait déjà fait, mais que ça n'avait rien donné.
Wynne lui dit qu'il voulait kidnapper le grand patron de l'entreprise et le garder en otage jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désirait. Il disposait déjà de l'endroit idéal pour le garder en otage et il ne lui restait plus qu'à trouver quelqu'un pour l'aider. Il la rappela un mois plus tard pour lui demander son aide. Elle refusa. La voyante remit au FBI son dossier sur Wynne. Une fois qu'elle eut l'assurance qu'elle bénéficierait de la protection de la police, elle accepta de collaborer avec les autorités et promit de contacter Wynne pour organiser une rencontre avec lui. Des techniciens posèrent des micros et une caméra dans son bureau.
Notre plan consistait à provoquer une rencontre entre Wynne et elle, au cours de laquelle ils poursuivraient leur discussion sur l'enlèvement de M. Aaron, de même que sur différents autres points qui pourraient corroborer ce qu'ils avaient déjà abordé ensemble au cours de discussions antérieures.
Alfred Wynne mordit à l'hameçon. La rencontre eut lieu au début de décembre 1988. Les agents du FBI virent Wynne arriver au bureau. Finirait-il par révéler où il avait séquestré la femme d'Aaron? Les agents l'espéraient. Après avoir dit à Wynne qu'elle avait vu une émission à la télévision sur l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron, la voyante lui demanda s'il avait joué un rôle dans ce crime. Wynne le nia en ajoutant qu'il avait pris la décision de ne pas enlever Robert Aaron ainsi qu'ils en avaient déjà discuté. Même si l'enregistrement corroborait maintenant la déposition de la voyante, il ne fournissait pas les preuves suffisantes pour arrêter Alfred Wynne. Lorsque celui-ci quitta le bureau, les agents le prirent en filature.
Nous avions espéré que la rencontre de Wynne et de cette voyante aurait comme effet à tout le moins de l'amener à faire une vérification de l'endroit où il avait abandonné le corps de Madame Heron ou nous conduirait à un complice.
Mais le suspect n'effectua jamais quelques visites d'un lieu où il aurait pu dissimuler le corps. Quelques semaines plus tard, les agents apprirent toutefois que Wynne possédait un chalet dans une région marécageuse en Floride, l'endroit rêvé pour un ravisseur. Les agents espéraient y trouver Annie Laurie Aaron, morte ou vive. Le chalet pouvait toutefois avoir été piégé, et un complice armé pouvait les y attendre à l'intérieur. Mais les agents ne trouvèrent aucun sous-sol. L'endroit ne contenait pas le moindre indice relié à l'enlèvement. Annie Laurie Aaron était toujours portée disparue et présumée morte. Puis, à la fin de juillet 1989, Alfred Wynne fit parvenir un classeur au ministère du Revenu, les mettant au défi de trouver les documents financiers qu'on lui avait demandés. Mais à cause de son arrogance, il oublia d'éliminer un indice important, signant ainsi sa condamnation.
Selon nous, Wynne a envoyé ces quelques 1000 documents aux agents du ministère du Revenu pour les intimider et les forcer à le laisser tranquille.
James Tucker, procureur.
On s'est aperçu qu'il adoptait cette attitude dans de nombreuses situations. C'est avec arrogance qu'il tentait toujours de dominer quiconque entrait en relation avec lui.
Quand les agents du ministère tombèrent sur des lettres concernant un enlèvement et un complot de meurtre, ils appelèrent le FBI. Ces documents décrivaient comment Wynne et une de ses ex-petites amies avaient planifié d'enlever et de tuer le mari de celle-ci. De l'avis de l'agent spécial du FBI, Tom Montgomery, les ressemblances entre cette description et l'enlèvement de Madame Aaron étaient frappantes.
Ils y mentionnaient leur intention d'utiliser une vieille machine à écrire pour rédiger une lettre.
Agent spécial, Tom Montgomery.
Or, la lettre de rançon suite à l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron avait été écrite avec une machine à écrire des années 20. Ils faisaient également référence à des plans géographiques détaillés d'opérations de surveillance du secteur. Ils ajoutaient que Wynne allait commettre ce crime et que la femme ne devait que l'aider à obtenir ce qu'il voulait.
Les agents du FBI retracèrent l'ex-petite amie de Wynne au collège où elle travaillait. Ils avaient l'intention de l'interroger à propos du complot dont faisaient état les lettres. Elle commença par déclarer ne rien savoir d'un tel complot. Mais quand les agents lui rappelèrent qu'elle commettait un crime en empêchant l'enquête de suivre son cours, elle se ravisa. Elle déclara que le complot pour tuer son mari était l'idée de Wynne. D'ailleurs, quand elle avait réalisé que celui-ci était sérieux, elle avait rompu. Les agents lui demandèrent ensuite s'il avait été en contact avec lui depuis. Un an plus tôt, déclara-t-elle, soit au début du mois d'août 1988, Wynne lui avait demandé de la rencontrer dans un motel de Dillon, en Floride. C'était seulement quelques jours après l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron. Wynne avait un comportement méfiant, presque paranoïaque. Il lui montra une note écrite où il lui demandait s'il y avait des micros dans sa voiture et si quelqu'un l'avait suivi. Une fois qu'il fut convaincu qu'il ne courait aucun danger, il se mit à parler. D'abord, il lui demanda de poster une lettre pour lui en échange de $500 et du remboursement de ses dépenses. Après qu'elle eut accepté, il lui remit une avance de $250. Il lui remit ensuite une enveloppe dissimulée dans une serviette de table grise, puis il lui donna des instructions très précises. Elle ne devait ni toucher à l'enveloppe, ni même regarder l'adresse. Wynne lui dit ensuite d'acheter un billet d'avion sous un faux nom, de poster cette lettre d'Atlanta et de revenir par un autre aéroport que celui qu'elle avait utilisé à l'aller. Il ajouta qu'elle devait modifier son apparence avant de partir. Une fois à Atlanta, elle devait poster cette lettre le 11 août, mais selon la femme, il était tard ce jour-là quand elle trouva enfin une boîte aux lettres. À la dernière minute, elle ne put résister à l'envie de jeter un coup d'œil à l'adresse. La poste apposa son sceau le 12 août sur la lettre présumément envoyée par Annie Laurie Herring. Les agents montrèrent alors à la femme la photo de la lettre reçue par Robert Herring. Elle reconnut sans hésitation l'écriture de la femme. C'était bien, selon elle, l'enveloppe qu'elle avait déposée à la poste. Avec un aussi solide témoin à la disposition des enquêteurs, l'arrestation de Wynne n'était plus un objectif impossible. À la demande du FBI, l'ex-petite amie de Wynne accepta de porter un micro sur elle et de le rencontrer.
Nous espérions que Wynne discuterait des détails du crime.
Agent spécial Patrick McGlennon.
Qui lui expliquerait quel rôle elle avait joué pour lui en postant la lettre destinée à Herring, qui la remercierait pour son aide et lui réglerait ce qui lui devait encore.
La femme appela Wynne pour organiser une rencontre. Les agents lui avaient demandé de mentionner à Wynne le voyage à Atlanta. Comme on l'espérait, Wynne remit les $250 qu'il devait toujours à son ex-petite amie pour avoir posté l'enveloppe. Les agents furent témoins de toutes les vaines tentatives de leur informatrice à forcer Wynne à parler de l'enlèvement d'Annie Laurie Herring. Mais le suspect se mit sur la défensive et sortit de l'auto sans avoir reconnu son implication dans ce crime. C'était maintenant le moment ou jamais de passer à l'action. Pour arrêter quelqu'un sans courir de danger, l'élément de surprise est primordial. Alfred Wynne fut accusé de complot pour meurtre, d'avoir envoyé une lettre de menace, de s'être parjuré lors d'un témoignage devant un grand jury au cours duquel il avait déclaré ne pas être impliqué dans l'enlèvement. Malheureusement, les agents ne disposaient toujours pas de preuves solides que lui ou l'un de ses complices avait enlevé Annie Laurie Herring. Dans la voiture de Wynne, on découvrit de nombreux plans géographiques du Mississippi, dont un sur lequel était indiquée la sortie de Jackson et qui comportait des indications routières notées à la main. Peut-être s'agissait-il de l'endroit où le corps de Mme Herring avait été abandonné. Malgré des recherches exhaustives, on ne trouva rien. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les agents du FBI fouillèrent le bureau de Wynne. Ils avaient encore besoin de preuves matérielles. Les agents eurent un regain d'espoir en trouvant une vieille machine à écrire. L'agent spécial McGlennon avait encore en mémoire les résultats d'analyse de la lettre selon lesquels celle-ci avait été rédigée à l'aide d'une machine à écrire royale des années 20. C'était le modèle exact de la machine trouvée dans le bureau de Wynne.
Pour nous, c'était un gros coup de chance. J'ai tout de suite pensé que c'était la machine à écrire que Wynne avait utilisée pour rédiger la première lettre laissée dans la maison des Herring. Nous l'avons envoyée au laboratoire, déjà persuadés qu'on nous répondrait que c'était la machine qu'on avait utilisée pour taper cette lettre.
Au laboratoire du FBI, on constata toutefois que la machine trouvée dans le bureau de Wynne n'était pas celle qui avait servi à taper la lettre de rançon. Les agents en déduisirent que Wynne l'avait sans doute mise là pour semer le doute dans l'esprit des jurés advenant sa mise en accusation. Lors de la perquisition, on avait également trouvé la carte de visite d'une entreprise de location de véhicules. Lors d'un interrogatoire, le propriétaire de l'entreprise déclara qu'Alfred Wynne avait loué une mini-fourgonnette blanche à 3 reprises. Chaque fois, il avait parcouru plus de 800 km, soit seulement 160 km de plus que l'aller-retour pour se rendre chez les Herron. Les dates de location du véhicule ne coïncidaient pas avec la date de l'enlèvement, mais l'une d'elles correspondait toutefois avec celle où des voisins des Herron avaient aperçu Alfred Wynne dans leur quartier. Le procureur James Tucker disposait de peu de preuves. Il croyait que Wynne et son auxiliaire juridique avaient menti en déclarant que le suspect se trouvait avec une prostituée le jour de l'enlèvement.
Nous sommes retournés voir l'auxiliaire pour lui parler à nouveau de cet alibi.
James Tucker, procureur.
Les agents ont mis les cartes sur table avec lui. Il a fini par dire qu'il avait menti et que Wynne avait bien été absent du bureau au moment de l'enlèvement, c'est-à-dire entre le 24 et le 28 juillet.
Ses aveux prouveraient que Wynne s'était parjuré, mais ils ne permettraient pas de le faire accuser. Les agents ne mettaient plus du tout en doute sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre d'Annie Laurie Herron. Le procès fédéral pour le complot visant un enlèvement s'ouvrit au Mississippi le 29 janvier 1990.
Au cours de toute l'enquête et du procès de 2 semaines tenu à Hattiesburg au Mississippi, Wynne a maintenu qu'il était innocent.
Agent spécial Tom Montgomery.
Mais le jury l'a trouvé coupable des crimes dont il était accusé.
N. Alfred Wynne a écopé de la peine maximale pour ses crimes, soit de 19 ans et 7 mois d'emprisonnement pour complot en vue de commettre un enlèvement. Il n'aura jamais la possibilité d'être remis en liberté conditionnelle de sa prison fédérale de Coleman en Floride.
Encore à ce jour, nous n'avons jamais pu découvrir où Mme Herron se trouve. La famille mériterait pourtant de le savoir. Dans notre bureau, nous considérons toujours cette affaire comme non résolue et nous continuerons de la considérer ainsi tant qu'on ne nous aura pas dit où se trouve le corps de Mme Herron. La famille le mérite.
Monsieur Herron est mort des suites d'une attaque cardiaque le 28 novembre 1990. En mai 1991, le décès d'Annie Laurie Herron a été décrété afin que la succession de M. Herron et de sa femme puisse être réglée. Les enfants d'Annie Laurie Herron espèrent toujours découvrir un jour ce qui est arrivé à leur mère pour pouvoir faire leur deuil et la voir enfin reposer en paix.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et Mark Marabella. Il a été réalisé par David Haycox. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Olivier Citruc.